Bon, je vous propose que nous passions à la dernière partie de la manifestation. Et donc, à la synthèse des ateliers. Donc, je vais appeler pour l'atelier Énergie et transport du futur, Marc, qui a bien voulu faire la synthèse.
Bien, je vais essayer d'être très synthétique. Donc en fait, il y a eu beaucoup de questions. Ça partait un petit peu dans tous les sens parce que le domaine est extrêmement vaste et bien, il y avait plein de gens intéressés. Alors j'essaie de serrer un petit peu par domaine. Donc il y a eu toute une série de questions. Alors on nous a demandé de distinguer les questions qui ont été traitées et des questions qui n'ont pas été traitées ou laissées en suspens ou pas de réponse. Alors les questions traitées, il y a eu beaucoup de questions sur les biocarburants, les agrocarburants, avec quelques exemples, par exemple la filière bois, éventuellement la culture des algues, des choses comme ça. Donc là, beaucoup de questions. Ensuite, toute une série de questions par rapport à l'énergie nucléaire, la fusion nucléaire, en particulier en ce qui concerne l'énergie nucléaire, le problème de retraitement des déchets. Nous avons une série de questions sur les éoliennes le matin. Toute une série de questions aussi sur l'amélioration des moteurs thermiques. Les nouveaux moteurs, on a discuté des moteurs hybrides, on a aussi envisagé le moteur à air comprimé. On a discuté aussi de l'amélioration au niveau des lubrifiants, des problèmes de résistance. On a discuté aussi de l'amélioration de l'aérodynamisme des véhicules, des matériaux que l'on pouvait utiliser, les matériaux composites, en particulier pour les avions. Nous avons discuté de l'énergie solaire. Et on a abordé le problème des piles photovoltaïques et en particulier l'évaluation des problèmes liés à leur fabrication, des problèmes de santé, des problèmes de coûts énergétiques et le retraitement des déchets, de l'utilisation du silicium. Nous avons discuté aussi de la modernisation des équipements au sens large, en particulier des économies d'énergie au niveau de l'habitat. Il semble que là, il y a une marge de progression extrêmement importante. Si j'ai bien écouté, on pouvait gagner 30 à 40% d'économie sur la consommation d'énergie de l'habitat, alors que ça représente déjà 30% de la consommation totale énergétique. Donc autrement dit, on peut gagner quasiment 15 à 20%, ce qui représente, si je ne m'abuse, l'équivalent de la consommation au niveau de l'industrie, c'était 20%. Voilà. Donc à peu près l'équivalent. On a abordé aussi le problème de la durée des ressources, l'espérance d'utilisation, pétrole, uranium, charbon, en montrant que tout dépend de la politique de consommation que l'on utilisait. Enfin, on a abordé tout ce qui concerne les alternatives. En particulier, il semble que la solution passe par une diversification énergétique, en essayant de privilégier autant que faire se peut les énergies renouvelables, mais là aussi... On est quand même parfois un peu au taquet, ce qui concerne l'hydraulique ou l'éolien, on ne pourra pas espérer beaucoup. Il semble que la solution soit quand même d'envisager des changements de comportement au niveau de l'économie d'énergie, par exemple. En ce qui concerne les questions en suspens, ce n'est pas qu'on n'en a pas discuté, mais c'est qu'il n'y a pas forcément une réponse. Alors, le problème de la dangerosité des lampes basse consommation, la question a été posée. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. On a aussi envisagé le problème des ondes. En particulier, on a beaucoup parlé du téléphone portable. Là aussi, tout ça n'est pas tranché. On a abordé quelques questions un petit peu plus particulières, comme la production d'énergie à partir d'antimatière. Donc là, il y a eu un grand blanc, un trou, mais pas noir. Et enfin, il y a une question qui n'a pas été traitée, faute de temps, c'est les mécanismes de régulation, les instances de régulation et de gestion des choix énergétiques au niveau national ou supranational. Donc voilà, j'espère que j'étais à peu près synthétique et complet.
Donc voilà, s'il y avait des questions, mais rapidement, bien sûr, on est toujours tenu à respecter le délai, ou si les intervenants de cet atelier veulent rajouter rapidement quelque chose, je ne sais pas, je me tourne vers M. Naudon. Non, la synthèse était brillante, merci. Voilà, donc on va passer maintenant à l'atelier sur le thème de l'eau. Donc, si vous voulez bien. échanger. Merci.
Je vais essayer d'être aussi brillante. Alors, sur l'eau, bon, les questions ont plutôt été générales. Il n'y en a pas eu beaucoup, beaucoup moins apparemment que sur l'énergie. Donc, on a suivi à peu près le plan qui était prévu. C'est-à-dire que les premières questions qui ont été posées, c'était sur les différentes ressources en eau, les différents réservoirs utilisables. Alors là, il y a une question qui a été posée, c'est à quoi attribuer la situation de pénurie actuelle ? Est-ce que, donc, il y a un problème de recharge des nappes souterraines ? Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on peut utiliser d'autres réserves ? Par exemple les glaces, par exemple l'atmosphère, peut-être l'eau salée. Bon, ça c'est... Et puis on a évoqué les retenues d'eau, de, par exemple du marais Poitevin. Mais là, on a eu d'autres problèmes, c'est les problèmes d'équilibre des écosystèmes. Donc on a évoqué tout ça dans cette première partie. Ensuite, eh bien, on a traité des différents types de pollution. Donc là, on a évoqué surtout enfin, les différents types de pollution et les traitements. Donc les eaux usées. Alors on a beaucoup parlé de la pollution endocrinienne qui n'est pas prise en compte dans les traitements. Enfin, pas trop, je pense. Ensuite, on a parlé, oui, là, on a évoqué un petit peu les techniques d'épuration dans les petites communes avec les lagunages, mais on a vu qu'il y avait de grandes surfaces, en fait, qui étaient utilisées, donc ça peut être un problème avec les terrains agricoles. Donc, voilà, j'essaie de retrouver un petit peu mes notes. Donc ensuite, on est passé au traitement donc, des rejets, les traitements essentiellement des eaux domestiques, et avec les critères donc, pour mesurer la pollution après traitement dans les stations. Donc les paramètres qui sont pris en compte, c'est l'O2, l'azote et les phosphates. Mais alors il y a des molécules donc, qui ne sont pas prises en compte, c'est les médicaments tels que l'aspirine, les hormones, et ça perturbe les milieux naturels. On a évoqué les poissons qui devenaient hermaphrodites, et on s'est posé des questions sur... sur les humains qui mangent ces poissons. Donc pour les eaux souterraines, oui, on a vu que le temps pour l'épuration avait une très grosse importance. Mais actuellement, donc, on prélève de plus en plus ces eaux souterraines. Donc le cycle est un petit peu interrompu. Il est plus rapide, du moins. Et donc elles ont le temps de moins s'épurer. Et puis on a évoqué le problème des eaux des fleuves, là où il y a une pollution très importante. Et on a évoqué en particulier le rôle, là, on parle actuellement avec les problèmes de la pêche, puisque la pêche est interdite. En troisième point, donc, on a vu comment rendre l'eau potable, puisque c'était la troisième problématique. Donc on a évoqué peut-être d'avoir deux réseaux différents, ça c'était un premier point. C'est-à-dire qu'en fait, une grosse partie de l'eau n'est pas utilisée pour boire, en fait. Une grosse partie utilisée, la plus grosse partie est utilisée pour la toilette, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas deux réseaux différents. Mais bon, il y a des risques. On a évoqué les risques que cela pouvait entraîner. Après, on est passé aux différents traitements donc, pour rendre l'eau potable. Donc avec les différents traitements, et puis on a évoqué un petit peu les adoucisseurs d'eau. Puis on a vu les différences entre les eaux de source, les eaux minérales, les eaux du robinet. On a vu qu'en fait, l'eau du robinet était très potable, et qu'on a retenu qu'on pouvait boire tout à fait l'eau du robinet sans problème, que c'était une eau qui était bien traitée, qu'il n'y avait à peu près aucun problème. Alors à la fin j'ai dû être moins attentive. La dernière partie est sur la désalinisation de l'eau de mer. Ah oui, puisqu'on a dit que ça pouvait être peut-être une solution pour les pays justement qui ont des gros problèmes d'eau. Et donc on a vu que ces problèmes, donc ces procédés sont utilisés en Arabie, en Israël. Il y a différentes techniques pour donc avoir de l'eau potable. Mais que j'ai retenu que c'était parce que ça avait un coût important. Donc, en conclusion, quel remède pour demain ? Comment peut-on résoudre les problèmes ? Eh bien, c'est bien sûr une question de consommateur. Limiter la consommation, déjà, premier point. Agir au niveau des consommations journalières. Et on a dit qu'on pouvait peut-être passer par l'éducation dès le plus jeune âge. ça permettait de rééduquer également les parents. Voilà ce que j'ai retenu.
Merci.
Aussi, j'ai pas retenu ça.
Non, mais, voilà, est-ce qu'il y a une question, un complément par les animateurs de cet atelier ? Je me tourne vers... non. Mais merci beaucoup, c'était très bien aussi. Je vous le débarrasse, voilà. Ah, donc on va terminer par le troisième atelier, donc sur les OGM et PGM.
Donc, même chose, hein, d'abord les questions qu'on a plutôt traitées. Donc, ce matin, on a plutôt, ce qui a été présenté, c'est d'abord des précisions sur les techniques de modification génétique. On a cherché à distinguer ce qui était OGM de PGM, donc leur utilisation en sciences fondamentales, en sciences appliquées, en thérapie, etc. Et puis, donc, cet après-midi, au hasard des questions, ça a pris plusieurs orientations. Et donc, très vite, on a été amené à parler des intérêts économiques, à travers les PGM surtout, et donc tout le problème du monopole des producteurs de ces semences génétiquement modifiées. On a été amené aussi à parler de la position des États-Unis par rapport à ces PGM, et puis on a essayé de comprendre la différence entre cette position des États-Unis et la tendance actuelle des politiques européennes. On a conclu sur le fait que c'était très important qu'il y ait une veille sanitaire rigoureuse, régulière, et que à travers ça, on voyait également l'importance de l'indépendance des recherches scientifiques et de l'indépendance des expertises, de la validité de ces recherches. Et puis, un certain nombre de questions sont plus ou moins restées, je dirais, sans réponse ou avec des réponses plus vagues ou pour lesquelles on sentait qu'on était peut-être, je dirais, démunis pour le moment. Donc, en tout cas, on a évoqué l'effet des PGM alimentaires sur la santé des consommateurs. Donc là, pour l'instant, bien sûr, on a très peu de recul. On a évoqué donc le principe d'équivalence qui a été établi par les États-Unis. Et on s'est demandé comment, éventuellement, on pourrait revenir et remettre en cause ce principe d'équivalence. On a également évoqué les conséquences d'une possibilité de transmission verticale depuis les plantes génétiquement modifiées vers les bactéries du sol, puisque les plantes génétiquement modifiées l'ont été grâce à de l'ADN bactérien. On peut imaginer que cet ADN bactérien qui a été implanté dans ces plantes pourrait retourner vers des bactéries. Et donc là, bien sûr, le devenir du gène ne serait plus contrôlé. Et puis ensuite, le débat s'est ouvert sur l'intérêt des PGM par rapport aux produits phytosanitaires. Qu'est-ce qui était le plus juste d'utiliser. Et puis, des questions plus ouvertes sur les conséquences de l'utilisation de ces manipulations génétiques sur l'évolution des espèces et sur la biodiversité. Et puis enfin, tout à fait donc en fin d'après-midi, là, l'avenir de l'agriculture mondiale. Voilà. C'était resté ouvert, là, sans réponse.
Très bien, merci. Bruno, non, tu n'as pas de commentaire particulier. Alors, attends,
juste une chose que vous n'avez pas évoquée, on a aussi parlé de la production de médicaments par des organismes génétiquement modifiés en fermentant à échelle industrielle, comme les bactéries, les levures et les choses comme ça aussi.
Question, le principe d'équivalence, c'est quoi ?
Alors c'est quelque chose qui a été décidé par le Food and Drug Administration aux États-Unis et qui a décrété donc que les plantes génétiquement modifiées donc mises sur le marché aux États-Unis et au Canada étaient équivalentes des plantes sélectionnées par les méthodes traditionnelles d'hybridation. Voilà, qu'elles n'avaient aucune différence. Voilà, donc il n'y a pas de raison de les étiqueter et de faire une veille sanitaire sur ces produits.
Merci. Donc, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Donc, merci aux personnes qui ont fait les synthèses de cet atelier. Merci aussi aux intervenants et à vous pour vos questions qui ont été très intéressantes. Je vais laisser la parole maintenant à Didier Moreau, directeur de l'espace Mendès France, pour dire quelques mots de conclusion.
Bien. Merci de votre présence. Donc, je m'appelle Didier Moreau, je suis directeur de cet établissement. Aujourd'hui, je n'ai pas pu être parmi vous. Simplement vous dire que j'étais avec un des glorieux anciens du CNRS qui s'appelle Edgar Morin, que vous connaissez certainement, avec qui je prépare une université d'été internationale qui aura lieu dans notre région avant de partir au Brésil et qui va traiter des problèmes que vous venez de traiter. Et on vient de me dire que cette journée avait été brillante. Donc je voulais vous dire encore une fois que c'est un plaisir pour l'espace Pierre Mendès France de vous recevoir. Je voulais simplement vous dire, même si vous êtes fatigué et que vous allez partir, que c'est un privilège de pouvoir travailler avec la communauté scientifique via le CNRS, parce que je crois que ce travail de dialogue que vous faites, c'est un véritable travail à la fois d'éducation aux sciences, mais c'est aussi un travail de conscience politique. Et je voulais remercier derrière l'institution CNRS les chercheurs qui acceptent de se prêter au jeu du question-réponse. Et j'ai entendu tout à l'heure une information qui mérite un débat. Simplement vous rappeler que les consommations individuelles, celles dont vous êtes responsable, dont je suis responsable, le matin quand vous brossez les dents, quand vous éteignez ou pas votre ampoule électrique, c'est 11% de la consommation mondiale. Qu'est-ce qu'on fait des 89 autres pourcents ? Les 89 autres pourcents, ils seront changés par une action citoyenne, politique, de conscience individuelle et collective. Donc ce que vous venez de faire aujourd'hui, avec l'appui des scientifiques qui vous aident à avoir une pensée rationnelle, posée, c'est quelque chose qui est important pour l'avenir. Donc l'espace Mendès France a pour rôle de vous accueillir. Moi, je suis très heureux de travailler depuis très longtemps avec le CNRS en général et surtout la délégation Poitou-Charentes, ici présente avec Roger Fréty, à qui je vais laisser la parole pour quelques mots, puis Elisabeth Nau qui a participé à ça. Donc les clubs qui sont créés autour du CNRS depuis très longtemps, non seulement ils ont de l'importance, mais ils auront de l'importance dans l'avenir. Donc merci à tous d'avoir participé, merci aux enseignants et continuez ce travail entre vous, Roger.
Merci Didier. Je suis un petit peu comme le directeur de l'espace Mendès France. Je n'ai pas pu être présent au démarrage de cette manifestation, mais je crois comprendre que beaucoup d'entre vous ont participé très très fortement. Et je me suis laissé dire que les exposés ce matin des participants au club avaient été très intéressants, très brillants, très motivants. Donc merci à ceux qui ont préparé ces exposés. Merci à ceux qui ont accepté de parler en public en tremblant quelquefois. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Et je crois que si... Et vos collègues de classe, et les collègues des autres classes, des autres lycées, des autres établissements, et vos professeurs arrivent à vous découvrir sous un autre jour lors de débats publics, c'est très bien pour tous. Alors, en ce qui concerne ensuite la partie scientifique, à l'écoute des synthèses qui ont été faites, j'ai eu l'impression que vous aviez traité aujourd'hui de choses aussi nombreuses, aussi importantes que ce que vous faites presque en un trimestre dans l'établissement. Et donc, j'espère que ce mode d'apprentissage, cette manière de dialoguer avec des scientifiques, cette manière d'échanger, qui n'est plus simplement dans le cadre d'un programme officiel, mais dans un programme plus vaste dans lequel vous pouvez intervenir, vous a plu. J'espère que vous ferez partie de prochaines expériences du même genre qui seront lancées. Et pour maintenir le dialogue entre les chercheurs, que je remercie tous ceux qui ont participé, Et vous, et je vous remercie aussi d'être là, je vous rappelle qu'il y a possibilité d'inviter des chercheurs du CNRS à vous donner des conférences dans vos établissements. Il y a d'autres modes, d'autres outils que le CNRS a mis en place pour que les jeunes s'intéressent un peu plus à la science et que les scientifiques un peu plus matures puissent repasser leurs informations d'une manière compréhensible au public le plus large possible. Et donc, nous souhaitons que les échanges qui sont en démonstration aujourd'hui puissent se poursuivre, héberger par l'espace Mades France in situ ou à l'extérieur, puisque l'espace Mades France se délocalise aussi dans un tas de régions du Poitou-Charentes. Et donc, j'espère que vous repartirez d'ici content, un peu plus curieux que quand vous êtes arrivé, avec encore plus de questions, et qui sait, peut-être que à la prochaine réalisation de ces rencontres jeunes CNRS ou jeunes scientifiques, vous arriverez avec des thématiques qui vous intéressent également et qui pourront être traitées en interne. Pardon ? Bien sûr. Alors, si parmi les jeunes, il y a eu un délégué des élèves qui a été chargé de donner ses conclusions, de nous faire des critiques. Je vois déjà qu'on en désigne un là-bas. si un des jeunes veut s'exprimer, si vous avez des choses à dire, positives et négatives, si vous avez des suggestions à faire, vous avez à nouveau la possibilité de prendre la parole sur l'estrade ou de votre place. De toute façon, merci à tous, collectivement. Je ne cite pas individuellement les gens, mais ils sont tous utiles. Il y a eu une grosse préparation de fait pour que ces réunions soient, ou ces rencontres soient un succès. J'espère que vous repartirez contents, et que non seulement vous repartirez contents, mais que vous en parlerez autour de vous, et que l'an prochain, la salle de l'espace Mades France sera trop petite pour vous accueillir. Un lycéen, une lycéenne, un jeune, vous en avez assez. Bon, ça se comprend. Merci et bon retour dans vos établissements.
J'ai un message pour les jeunes du lycée Auguste Perret de la part de Christian Grandseigne. Vous devez rejoindre la place du Maréchal Leclerc et prendre votre bus numéro 7, rue Claverier.